Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Au sommaire de cette émission, dans la première partie, trois choses différentes. Un roman, un recueil, une bande dessinée et bien sûr un petit peu de musique. Et puis dans la deuxième partie d'émission, nous aurons le grand plaisir d'accueillir Romain Slocombe pour son dernier roman. Voilà Jacques, tu commences par le roman.
Un roman d'Antoine Chénas, un véritable coup de cœur. Le roman s'appelle Pur, P-U-R. Il est publié à la série noire de Gallimard ces jours-ci. Ça fait un bon moment que vous n'avez pas parlé de roman d'Antoine Chénas. On n'avait pas eu à lire depuis un moment. Il s'était mis à traduire et peut-être qu'il avait... Ah, il semblait avoir abandonné l'écriture, mais en fait, non, il n'avait pas vidé tout son sac. Et il a encore un tas d'histoires à nous raconter sur des tordus de la Côte d'Azur. Ils vont nous les faire découvrir. En fait, bon, je dis la Côte d'Azur, mais comme dans la plupart de ses romans et dans celui dont on va parler ici, c'est pas vraiment géolocalisé. On reconnaît cependant à certains détails, que je vous laisse découvrir, que c'est bien par ici que ça se passe. Ceci dit, cela pourrait être ailleurs, ça changerait pas grand-chose à l'intrigue, ni aux personnages, qui sont hélas de plus en plus répandus. Si le roman, je disais, n'est pas géolocalisé dans l'espace, il n'est pas vraiment non plus dans le temps. C'est un peu de l'anticipation, mais de vraiment pas beaucoup. Pour preuve d'ailleurs, un des protagonistes utilise un iPhone 6. Voilà, c'est vous dire qu'on y est quasiment. Hein.
Ouais, il a toujours un petit côté 2 ans après, quoi.
Voilà, bah, c'est pas, mais bon, ça pourrait être dans les 3 mois qui suivent. Alors ça commence, il va y avoir un accident sur l'autoroute. Patrick survit à la sortie de route, mais sa femme décède. C'est un beau couple de magazines, beau, riche et apparemment sans problème. Sauf qu'en fait, ils venaient de s'engueuler à une station-service. Ils ont eu aussi une altercation avec 2 maghrébins dans cette même station-service. Puis un accident. Il va y avoir aussi une résidence sécurisée. Une enclave résidentielle. En anglais, on dit une enclosure.
Enclosure,
voilà.
Oui, en anglais, c'est encore mieux quand même, hein, mais bon.
qui est située dans l'arrière-pays, qui est dirigée par un homme maniaque, disons, très croyant, ou enfin, en tous les cas, plutôt fou de Dieu, qui est autoproclamé révérend. Il va y avoir aussi un sniper qui descend des maghrébins le long de cette autoroute. Puis 2 flics.
C'est-à-dire qu'ils les prennent en stop? Non, pardon.
Oui, non, un sniper, voilà, avec une fusil à lunettes. Il va y avoir 2 flics, puisque, en fait, ils vont enquêter sur la mort de la femme, donc, en fait, parce qu'on sait pas si c'est vraiment un accident. Donc, 2 flics. Un qui est le pachydermique inspecteur du Rental. C'est vrai que, de toute façon, Antoine Chénas a toujours des personnages qui sont hors normes. Et là, c'est surtout celui-là. Et aussi Alice, qui est une belle...
Féline, hein, pardon.
Plus que ça. Et Alice, là, donc, est une belle métisse, plutôt prête à tout pour y arriver. Et donc, les 2 flics vont enquêter sur l'accident, en fait, suspectant tour à tour, le mari, les maghrébins en Mercedes, avec qui ils s'étaient disputés, ou alors une simple fatalité. Ça arrive aussi, des accidents comme ça. On a aussi, et surtout, devrais-je dire... Un maire qui, c'est la période préélectorale, il cherche à se faire réélire et donc il joue sur la peur et sur l'insécurité. On rappellera personne dans le coin, bien évidemment. Quitte à faire quelques collusions avec des groupes extrémistes. Ici, ils sont nommés Force et Honneur. Et ils font régner dans la basse ville ou la vieille ville un ordre, ou plutôt en fait un désordre savamment calculé.
On va devenir paranoïaque.
On va devenir paranoïaque, exactement. Bon, alors voilà, ça c'est un peu les éléments qu'il y a dans ce roman. Et donc, en fait, il va y avoir une enquête. Et c'est assez, d'ailleurs, étonnant pour un roman d'Antoine Chénas, parce que il nous fait pratiquement un polar cette fois-ci. Il a presque quasiment abandonné son côté trash pour prendre un style et une façon de raconter presque classique. C'est presque un roman policier traditionnel, pour autant que...
Il faut rajouter peut-être donc que dans les précédents, nous étions dans des romans noirs où on avait complètement éliminé l'enquête, pratiquement.
Oui. C'est vrai que je présupposais que vous avez déjà écouté nos émissions et donc que vous avez...
Et surtout que tout le monde connaissait
la prose d'Antoine Chénas. Le cas, effectivement, tu fais bien de le préciser.
Et c'est un tort.
Et donc, voilà, un policier presque traditionnel, pour autant que Chénas s'y glisse complètement. Il alterne dans son récit les points de vue, passant... d'un personnage à l'autre, le mari, son beau-frère, l'un ou l'autre des policiers, le père de sa femme, certains résidents de la résidence. Ces différents points de vue font évoluer, bien sûr, son intrigue. Son écriture, puisqu'il faut, il faut en parler parce qu'elle est extrêmement particulière à chaque fois, et là, d'habitude, il ne mâche pas ses mots. Ici, c'est une écriture extrêmement froide, comme si elle était hyper éclairée avec un néon. Il utilise un vocabulaire, un champ lexical, pour tout dire, qui est à la fois technique, recherché, organique, parfois même extrêmement médical, comme pour faire monter à la fois la parano et l'empathie du lecteur, qui se trouve en fait du coup complètement agrippé à l'histoire.
Et puis peut-être c'est une dissection de la société, d'où les termes médicaux.
C'est pas complètement faux, en tous les cas, il y en a certains qui pourront le voir comme ça. Parfois, il force légèrement le trait de ces personnages qui en deviennent un peu plus gras. Bon, je parlais évidemment pas forcément que pour le personnage qui est pachydermique, qui mange exactement comme quatre et qui adore se faire voir en train de manger comme s'il s'autodétruisait. Je veux pas vous raconter plus l'histoire, il faudrait que vous le découvriez. C'est un roman qui est en fait éminemment politique, qui peint en fait ce que devient, c'est exactement ce que devient notre société, où, comme il le dit lui-même, la segmentation sociale est de plus en plus prégnante.
C'est peut-être ce que la société est, déjà.
C'est en fait ce qu'il veut dire, je pense, enfin, sans présumer de ses pensées, ce qu'il veut, en tous les cas, ce que j'ai lu, moi, en lisant ce livre. C'est un roman aussi qui est empreint de l'univers de Ballard, de Cronenberg, de Lynch. Bon, c'est le côté un peu légèrement anticipation, où tout n'est pas complètement... Quelques zones sont floues encore. C'est aussi un roman philosophique, qui replace l'homme dans son enveloppe corporelle, et Chenas adore parler de l'enveloppe corporelle de l'homme, à laquelle il fait subir parfois toutes sortes de choses. Et donc il replace cette enveloppe corporelle au milieu d'une société qui est complètement déshumanisée, qui est vouée à une privatisation inexorable. Privatisation des lieux, des gens, mais aussi des sens, les cinq sens. C'est un roman, par contre, qui, par rapport à ses précédents, vu que sa trame un peu plus classique, pourra nous permettre de rentrer plus facilement dans l'univers d'Antoine Chénas, parce que si jamais vous avez lu des critiques, des chroniques sur lui, son univers peut-être parfois déroutant ou effarouché le lecteur et qui s'attendrait pas à certaines scènes qu'il aime.
Oh, mais maintenant,
mais dans celui-là,
dans le monde du roman noir, on en a quelques-uns. On va bientôt parler de Karim Madani. Voilà, il y a auteurs qui osent aller un petit peu plus loin qu'une littérature noire classique.
Il disait lui-même dans une interview que, voilà, au début, il était plus jeune, il se révoltait, que maintenant, il a vu qu'il y avait de ses jeunes collègues qui prenaient un peu son chemin, et donc que lui, il pouvait partir dans une voie légèrement différente.
Mais toujours avec beaucoup de séditions. Voilà, donc on rappelle le titre.
Donc, Pur, P-U-R, de Antoine Chénas, publié à la Série Noire de Gallimard.
Voilà, puis comme ça se passe dans le coin, précipitez-vous, parce que ça se passe quand même dans le coin. Alors moi, je vais vous parler d'un recueil, c'est un coffret, en fait, de quatre nouvelles, quatre petits textes. Le gros intérêt, je dirais, dans la forme, et après, l'intérêt de ce recueil, c'est dans le fond, parce que c'est quatre histoires magnifiques, c'est de ne pas avoir pris un seul petit livre dans lequel mettre les nouvelles, mais d'avoir fait un joli petit coffret où vous pouvez sortir quatre petits livres, donc avec quatre nouvelles, l'une de Didier Deninck, l'autre de Marc Villard, la troisième de Dominique Sylvain, et le quatrième texte est de Marcus Malte. Alors, ça s'appelle « Femme en colère » et c'est dans la collection Polaroid des éditions Inuit qui ont, ma foi, ces derniers temps, de bien bonnes inventions et de jolis petits objets littéraires. Alors, pourquoi « Femmes en colère » ? Ben, Femmes en colère, c'est le nom d'une association, c'est les femmes, c'est toutes ces femmes qui se révoltent aux quatre coins du monde. Il était temps. On taxe souvent ces femmes d'extrême féminisme. Et là-dedans, on échappe, dans ces quatre nouvelles, on échappe totalement à ce concept, avec quatre portraits de femmes qui sont face, pour l'une, à la misère, pour une deuxième aussi à la misère, pour d'autres, à la violence. En fait, il y a la violence partout. C'est la violence de manquer d'argent, c'est la violence de voir des gens exploités, c'est la violence d'une perte d'amour, c'est enfin une violence physique de viol, d'agression sur des femmes qui ont peu de chances de se défendre. Donc dans ces quatre nouvelles, celle de Marcus Malt, Tamara, suite et fin, on va partir en Guyane. Disparition Dominique Sylvain, une femme va aller chercher à l'autre bout du monde, à Bangkok, son amour perdu. Kebab Palace, Marc Villard va mettre en scène une mère et sa fille qui vont essayer de venger une jeune chinoise assassinée. Enfin, dans La sueur d'une vie, peut-être le texte qui m'a le plus touché parce qu'il s'agit de femmes âgées, quatre femmes vont tenter un dernier très beau geste qu'on a déjà vu souvent à la télévision en expliquant à un directeur de banque, en le tenant en otage quelques heures, un petit peu la dérive de leur vie à cause justement des banquiers et des traders. Voilà, donc on a quatre petites nouvelles, quatre portraits de femmes, quatre instantanés de vie, ça va bien à ce format. Et voilà, ces quatre petits livres dont j'avais beaucoup envie de vous parler parce que c'est des histoires qui m'ont touchée, c'est des destins personnels, mais qui sont en même temps, je dirais, des condensés d'humanité féminine. Et puis, de temps en temps, elles prennent un petit peu leur revanche, elles prennent un petit peu acte de vengeance. Et ça fait du bien.
Ouais, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ils ont fait parler des femmes, pas forcément qu'à des femmes, parce qu'il y a Bande Dominique Sylvain qui en est une, mais sinon, les trois autres sont des auteurs
Voilà, hommes. mais qui savent très très bien parler des femmes de toute façon dans leurs autres romans, donc c'est un exercice qui leur va fort bien.
Je précise juste qu'effectivement, le coffret qui contient les quatre nouvelles est très très joli, très habilement designé, mais on peut aussi...
Les acheter individuellement. Alors par contre, je sais que le coffret fait 18 €. Si on les achète individuellement, ce serait presque dommage, mais pourquoi pas? Ça peut diluer les dépenses. Chaque petit album, chaque petit livre vaut 4 €. Voilà. Vous aurez, je pense, la photo sur le site de La Noiraude dans quelques jours.
Ondenoir.com, je le rappelle.
Ondenoir. Et maintenant, un petit peu de musique.
Un petit peu de musique. Donc, c'est pratiquement Antoine Chénas qui l'a choisi, puisqu'en fait, il fait écouter ce morceau à un de ses personnages, un jeune adolescent. Donc, nous allons l'écouter. Le morceau, s'appelle Grinderman. C'est le titre éponyme du premier album de Grinderman, qui est, disons, le side project... Le projet à part, disons, de Nick Cave, un projet plutôt brut de décoffrage et assez énervé, des compositions qu'en fait Nick Cave a fait à la guitare plutôt qu'au piano quand il est avec ses Bad Seeds. Donc nous trouvons Nick Cave avec Warren Ellis, Martin Kazé et Jim Sklavunos. Grinderman.
Man in the silver rain,
Ben voilà, un petit peu de Nick Cave version spéciale.
Voilà, on a eu...
Donc, là, Corinne disait dans le sommaire qu'on allait présenter une BD. Eh ben, ça pourrait être une BD, parce qu'effectivement, c'est publié chez Casterman, que le format ressemble à une BD, avec une très très belle couverture cartonnée, 96 pages en quadricomie, et un très beau papier. Il y a des dessins, donc ça pourrait être une BD. Mais il y a aussi des photos. Ça pourrait presque être un roman photo, comme il y avait dans les magazines d'antan. Mais en fait, non, c'est rien de tout ça, car tous les personnages de cet ouvrage, disons, sont des Playmobil. Vous savez, les petits personnages avec les petites mains comme ça, qui ont une forme de pince.
Et qui peuvent peut-être prendre des petits outils de temps en temps.
Voilà, un ouvrage bizarre qui est au départ destiné aux enfants. Mais je pense que, vous verrez, ça va bien au-delà. Alors, j'ai pas encore dit le titre. Le titre, c'est Le chien des Baskerville. Donc ça, ça doit vous dire quelque chose. C'est une nouvelle de Conan Doyle, parue en 1902. Et donc, en fait, c'est le texte intégral de cette nouvelle, adapté, parfois en dialogue, parfois avec des mises en forme très particulière. Donc l'auteur de cet ouvrage, de ce documentaire sur le chien des Baskerville s'appelle Richard Anglick. Et c'est un spécialiste, un amoureux fou des Playmobil. Je sais, je vous dis pas combien.
Parce que sinon,
je vous dis pas combien qu'il en a. Vous irez chercher si vous voulez sur Google. Alors je disais une mise en forme particulière parce qu'il y a des reproductions de lettres, de manuscrits, de journaux anglais d'époque où tous les personnages, bien sûr, quand ils sont dessinés, sont des Playmobil. Mais sinon, ils sont photographiés dans des décors créés spécialement par Richard Anglick ou des amis à lui. Alors il y a des pages qui se déplient pour avoir des scènes en panoramique. Il y a des gros plans, des plans rapprochés, un travelling sur la lande, à la poursuite du chien. Bon, vous savez pas lu l'histoire, mais enfin vous la connaissez sûrement. Le style graphique change quasiment toutes les 4 ou 5 pages. Ça donne un dynamisme et une vitalité à la lecture qui est assez étonnante. Mais en fait, photos ou dessins, on jurerait, une fois qu'on a fini la lecture, que c'est comme ça que l'Écossais Conan Doyle avait conçu Sherlock Holmes. Après la lecture, on ne verra plus Sherlock Holmes que comme un Playmobil avec un chapeau vert. Plus du tout sous l'apparence de Robert Downey Jr., de Benedict Cumberbatch pour les plus jeunes, ou de Jeremy Brett et Basil Rathbone pour les plus anciens. Cet ouvrage, je le disais, s'adresse au départ à un public jeune. Pas trop tout de même, parce qu'en fait, l'histoire du chien des Baskerville est un peu rude, c'est pas une bluette. Mais elle ravira aussi les plus grands, qui prendront prétexte d'un cadeau, un peu comme on le faisait pour les trains électriques ou les circuits de voiture, pour se l'approprier discrètement. Voilà. Donc je rappelle, Le chien des Baskerville, adapté par Richard Anglick, chez Casterman.
Et voilà, on se retrouve dans la deuxième partie.